de Florence Paracuelos, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Ils reprennent le travail et ils sont heureux. Phénomène étrange et typique chez les enfants qui retournent à l'école ce matin. On verra si c'est aussi vrai au lycée dans un instant avec des ados qui viennent de passer les grilles de leurs établissements. Pour cette deuxième rentrée de l'ère Covid, version Delta, plus contagieux mais pas plus dangereux pour les enfants. Emmanuel Macron à Marseille, il annoncera son grand plan pour la ville aujourd'hui après une séquence sécurité hier soir avec des policiers. Question à la une, à quand la hausse des salaires évoquée par le gouvernement, c'est au patron d'en décider. Et ils ne sont pas pressés, le MEDEF reçu à Matignon cet après-midi. Autre question, en Afghanistan, où en est la résistance aux talibans emmenée par le fils du commandant Massoud au Panjshir. L'Afghanistan de retour 20 ans en arrière, on en parle Nicolas avec les invités du grand entretien tout à l'heure.
L'historien Jean-Pierre Filiu, l'écrivain et réalisateur Atik Raimi au micro d'Inter dans une grosse vingtaine de minutes. Le Standard vous attend, on compte sur vous, 01 45 24 7000.
Mais que fait-il dans les toilettes? Le tennisman grec Tsitsipas enchaîne les victoires et les longues pauses pipi. Il a été hué cette nuit à l'US Open et ses adversaires commencent à franchement s'agacer. Et puis le dernier Almodovar dans ce journal, présenté hier à la Mostra de Venise. On y retrouve Penélope Cruz et le tourment des femmes, cher à l'espagnol.
France Inter. Pour ma rentrée, je me suis fait une nouvelle coupe, c'est un éclair, et puis je me suis coupé un peu le dessus, et puis on a fait un blanc sur les côtés, et puis voilà. Et puis je me suis mis des nouveaux habits pour être tout neuf. Ouais, et là je suis prêt, je suis chaud patate, ouais voilà.
Chaud patate, le sont-ils tous autant, ces 12 millions et demi d'élèves qui font leur deuxième rentrée sous Covid aujourd'hui. On sait qu'avec les années qui passent, l'enthousiasme parfois a tendance à baisser. Bonjour Sonia Princey.
Bonjour.
Vous qui êtes avec des secondes au lycée Paul Lapy de Courbevoie dans les Hauts-de-Seine, est-ce qu'ils sont chaud patate eux aussi?
Eh bien beaucoup moins, hein. Ils sont beaucoup plus intimidés les petits secondes. Les premiers sont arrivés à 7h30 devant la grille par peur d'être en retard. Chirine est impressionnée de rentrer dans ce grand lycée.
J'ai peur de la rentrée, je suis pas très sereine. La rentrée, les nouveaux professeurs, Paul Lapy c'est une grande école, donc on s'adapte c'est sûr, mais on sait pas trop comment s'y prendre, etc.
Alors les élèves sont plutôt contents quand même de se retrouver tous ensemble. L'an dernier, ils étaient en demi-groupe à partir de novembre. Samy espère qu'ils auront une année normale.
Je suis un peu pressé, hein, parce que j'ai envie de travailler, vous voyez. Mais après, me lever le matin et tout, c'est dur. Je pense qu'on va être en classe entière. D'abord, on va rester 5-10 minutes dans la cour. Et ensuite, je pense on va voir le nouveau protocole sanitaire qui a été décidé. Et on verra. Hein. Ça, même pour la cantine et tout, on va voir. Si on mange par classe ou si on mange tous ensemble et tout. Pour l'instant, on sait rien. C'est mieux si on mange tous ensemble, si on mange que par classe. Déjà qu'on fait cours avec notre classe, ça va devenir un petit peu saoulant, mais on va surmonter, c'est pas grave, il faut bien.
Alors les élèves viennent de rentrer, ils sont accueillis en ce moment par leur professeur principal et vont découvrir effectivement toutes ces nouvelles règles. Ils seront informés aussi de la possibilité de se faire vacciner. Ils pourront se rendre dans un gymnase à 10 minutes à pied du lycée. Des créneaux de vaccination leur seront réservés.
Sonia Princey au lycée avec Christophe Papon. Voilà donc pour les lycéens en partie vaccinés. Contrairement aux petits sixièmes et aux primaires, on sait que le variant Delta plus contagieux pour tout le monde va circuler davantage à l'école. Cette rentrée, l'Institut Pasteur estime que les enfants représenteront la moitié des nouvelles contaminations à la mi-septembre. Véronique Julia, pour autant, pas de panique, il n'est pas plus contagieux ce variant pour les plus jeunes.
Le variant Delta, c'est comme la varicelle en termes de contagiosité. Sans protection, sans vaccin, le taux de reproduction est proche de 9, difficile de passer au travers. Chez les enfants, la transmission a beau être deux fois moins élevée que chez les adultes, il n'empêche, Christelle Gras-Le-Guen préside la Société française de pédiatrie.
Les enfants, effectivement, depuis le début de la pandémie, on voit que le virus s'accroche moins chez eux. Pour autant, on imagine bien dans des classes de 30 qu'avec la meilleure volonté du monde, ça va être difficile d'en limiter la diffusion.
L'incidence est de 130 pour l'instant chez les 0-9 ans. Ça va monter, on s'en doute. Le virus va fortement circuler dans les écoles, mais les pédiatres insistent sur les enfants. Le variant ne semble pas plus dangereux, pas d'inquiétude particulière, donc à ce stade de nos connaissances.
On a surveillé de manière très attentive les formes de Covid-19 chez l'enfant infecté avec ce variant. Il n'y a pas plus d'enfants admis en réanimation.
Un variant pas plus dangereux peut-être, mais forcément s'il y a plus de cas, il y aura mathématiquement plus d'hospitalisation. question. Quant à la vaccination éventuelle des moins de 12 ans, la question ne se pose pas pour l'instant car on manque de données scientifiques. Elle se posera peut-être d'ici quelques semaines, fin septembre, début octobre, quand les laboratoires publieront les résultats très attendus de leurs essais cliniques sur la vaccination des enfants, ce qui permettra d'en mesurer le bénéfice-risque.
Véronique Julia pour ce variant plus contagieux mais pas plus dangereux, ma langue a fourché.
Il est 8h06, Florence, pour Emmanuel Macron, la rentrée c'est à Marseille.
Au propre, comme au figuré, rentrée scolaire dans une classe de la ville ce matin avant le détail de son grand plan pour Marseille cet après-midi. Rentrée politique avec bain de foule et visite ciblée dans un commissariat des quartiers nord hier soir. Il annonce 200 policiers supplémentaires dès l'année prochaine, 500 caméras de vidéosurveillance et 150 millions d'euros pour le nouveau commissariat central de la ville. Rudy Mana applaudit, mais pour lutter contre les trafics, il faut s'attaquer aux racines du mal, selon le secrétaire départemental du syndicat de police Alliance dans les Bouches-du-Rhône.
C'est bien d'avoir un nouvel outil propre, neuf, avec des salles de sport, avec des places de parking que nous n'avons pas à l'évêché. Croyez bien que pour le mental et le moral des policiers, ça a quand même un vrai impact. Ce sont des mesures que nous prenons vraiment avec satisfaction parce que c'est toujours agréable à entendre. Maintenant, le fond du problème, c'est pas forcément les conditions de travail. On demande également des sanctions pénales beaucoup plus fortes. On a aussi demandé à ce qu'il y ait des mesures qui soient prises pour la déscolarisation des enfants. Il y a des gamins de 12, 13, 14, 15 ans dans ces réseaux. Et ils savent que pénalement, ils ne seront jamais embêtés. Comment se fait-il que ces enfants n'arrivent pas à les mettre à l'école de la République? C'est ça la vraie idée. Aujourd'hui, je regrette qu'il n'y ait pas eu le ministre de l'Éducation nationale. Comment a-t-on en France autant d'enfants de 12, 13, 14, 15 ans déscolarisés?
La question posée par ce syndicaliste policier de Marseille, joint par Ariane Grissel, à laquelle on ajoutera cette nouvelle cible désignée par le président pour lutter contre le fléau meurtrier du trafic de drogue.
L'idée que dans certains quartiers, ce serait branché de prendre de la drogue pour que dans d'autres, on ait des jeunes qui se fassent tuer parce qu'ils la vendent ou surveillent, c'est terminé. Il faut que tout le monde comprenne dans notre pays que les consommateurs aujourd'hui de drogue sont des complices. De fait, on ne lâchera rien.
Les consommateurs dans le collimateur, le nombre de fumeurs de cannabis est estimé à 5 millions en France, dont 1,5 million en consomment régulièrement. Que pense-t-il de cette mise en cause? Hugo Charpentier leur a posé la question à Marseille, justement.
Bruno tient un restaurant tout près du Vieux-Port et pour lui, les propos d'Emmanuel Macron sont hors sujet. En rien, les consommateurs ne sont complices de qui que ce soit.
Parce qu'ils ne font pas partie du trafic. C'est des consommateurs, c'est tout. Ça s'arrête là. C'est pas eux qui tiennent les armes, c'est pas eux qui tuent, c'est pas eux. Ils n'ont rien à voir. Pour moi, ils n'ont rien à voir.
Faux, lui répond Ahmed.
S'ils ne passaient pas que 5 minutes dans ces quartiers à aller juste acheter la drogue, qu'ils y vivaient et qu'ils voyaient ce que ça provoque, ils réfléchiraient, ouais, c'est sûr qu'ils alimentent.
Âgé d'une cinquantaine d'années, Saïd est un consommateur de cannabis régulier et il l'admet, il lui arrive parfois de culpabiliser au moment de payer son dealer.
Oui. S'il n'y a pas nous, ils ne vendent pas. S'il n'y a pas les acheteurs, il n'y a pas les vendeurs. Hein. C'est vrai, un petit peu quand même. Mais bon, j'attends que l'État se mette à vendre. Hein. Voilà, il n'a qu'à vendre l'État.
La petite phrase prononcée par le président a lancé le débat à Marseille. Un débat qui ne fait que commencer.
Un débat sur la légalisation du cannabis au micro de France Bleu Provence. Autre débat, autres interlocuteurs à présent. Il défile depuis hier à Matignon chez Jean Castex, syndicats et patronats qui ont bien noté la petite musique lancée par Bruno Le Maire sur la hausse des salaires pour faire face à l'inflation et aux difficultés de recrutement. Mais à la fin, ce sont les patrons qui décident. Et pour l'instant, l'idée ne les fait pas sauter de joie, comme le dira sans doute le MEDEF au Premier ministre cet après-midi, Maxime Debs.
Augmenter les salaires, pourquoi pas? L'idée ne choque pas à première vue le patronat, le porte-parole du MEDEF, Fabrice Le Sachet.
Nous, on est choqués de rien. Simplement, il n'y a pas un bouton depuis Paris où on appuie et tous les salaires augmentent dans les entreprises.
Et pour cause, toutes les situations sont différentes.
Il y a des territoires dans lesquels c'est plus difficile que d'autres. Chaque région, chaque entreprise, chaque domaine de compétences a des réalités. Et donc les négociations, elles se passent dans les entreprises. Les négociations se déroulent correctement. D'ailleurs, il y a un partage de la valeur ajoutée qui va croissant avec l'actionnariat salarié, avec la participation, avec l'intéressement. Il y a eu des primes versées dans un certain nombre de secteurs.
Le MEDEF qui abonde, les salaires ces dernières années, assure-t-il, ont augmenté plus rapidement que l'inflation. Alors, s'il faut les revoir à la hausse aujourd'hui, notamment dans les secteurs en tension, comme le voudrait le gouvernement, il faudra sans doute aussi un coup de pouce de l'autre côté.
Moins les charges seront élevées, plus le net que les salariés auront sera important. Il y a aussi une grande partie du salaire qui est une partie que le salarié ne retrouve pas en fin de mois sur son compte bancaire, qui sont les charges et qui sont payées par les entreprises. Donc il n'y a pas de baguette magique sur ce sujet.
Baguette magique qui serait sans doute bien pratique. Pourtant, hein, Jean Castex, les partenaires sociaux tenteront peut-être de la trouver aujourd'hui encore avec lui.
Maxime Debs, en Afghanistan, c'est un haut lieu de résistance aux talibans qui ont repris le pouvoir il y a 2 semaines. La vallée du Panjshir, où le fils du commandant Massoud poursuit la lutte. Avec ses combattants, ils ont repoussé 2 offensives ces derniers jours. Mais combien de temps tiendront-ils, Bertrand Galichet?
Avec un noyau dur de 10 000 hommes, auxquels s'ajoutent d'anciens militaires de l'ex-armée afghane et des recrues occasionnelles, les combattants de la vallée du Panjshir, sous les ordres d'Ahmad Massoud, confirment ces derniers jours leur résilience face aux assauts répétés des talibans. Olivier Weber, auteur du livre « Massoud, le rebelle assassiné », est en contact régulier avec la résistance afghane.
Le père avait comme coutume de faire sauter les falaises en bas de la vallée à 1800 mètres d'altitude. Or, c'est précisément là que les talibans ont lancé une offensive hier. Et on peut penser que le bas de la vallée est très bien défendu. Le fils de Massoud, Ahmad, donc, a récupéré des hélicoptères. Il y a là aussi des Humvees. Il y a beaucoup d'armement léger, qui est l'arme de base d'ailleurs du Mujahideen, du résistant à la vallée du Panjshir. Il y a de la Kalachnikov, mais aussi le fameux fusil M16 des Américains. Cette vallée n'a jamais été prise.
La différence avec les guerres précédentes face aux Soviétiques, puis aux premiers talibans, étant qu'aujourd'hui, le nouveau pouvoir de Kaboul verrouille le territoire au nord de la vallée du Panjshir et aussi les postes frontières qui approvisionnaient la résistance. Le temps joue donc contre le fils du commandant Massoud et son armée isolée et oubliée par l'Occident.
Alors, plus de guerre extérieure pour les États-Unis, dont l'ennemi est intérieur et climatique en cette rentrée. D'abord le feu. Joe Biden vient de décréter l'état d'urgence en Californie, où un gigantesque incendie s'étend depuis la mi-août dans la Sierra Nevada. Et puis la pluie diluvienne sur New York dans le sillage de la tempête Ida. Presque toutes les lignes de métro ont été arrêtées pour cause d'inondations. État d'urgence, là aussi, décrété par le maire de la ville. Et du climat à la biodiversité, qu'elle est difficile à protéger, cette biodiversité, même avec la meilleure volonté du monde. Pour preuve, la réserve des Sept Îles, cette zone au large des Côtes d'Armor, qui doit être agrandie pour laisser ces oiseaux et ces phoques en paix, ce qui crée des tensions entre pêcheurs et défenseurs de la nature. Reportage embarqué, signé Célia Quéret.
On est sur l'Aventure Douée, qui veut dire en français à la grâce de Dieu.
Comme chaque matin ou presque, Guillaume de Nanteuil, plaisancier à la retraite, est en mer sur son petit bateau à moteur. Il sort du port de Ploumanac et met le cap sur l'île de Rouzic pour pêcher du lieu et du bar. Il ne veut pas que cette réserve crée une zone interdite de navigation, question de principe.
Il y a une réserve naturelle, on le comprend très bien sûr, mais l'accès est libre. Cette situation satisfaisait tout le monde. Une zone de quiétude, ça veut dire une zone interdite.
Cette zone inaccessible sera toute petite. 1 km² seulement au nord-ouest de Rouzic, mais David Leverge, pêcheur, n'en démord pas. Il a même accroché une banderole à son bateau, non à la zone de quiétude.
C'est un morceau de liberté qu'on nous enlève encore. Pour l'instant, c'est petit, mais un arbuste peut cacher un arbre. C'est une zone encore en moins à travailler pour nous.
Et pourtant, Pascal Provost, le conservateur de la réserve des Sept Îles, ne manque pas d'arguments. L'extension de cette réserve sera bénéfique à toutes les espèces.
Il y a une colonie de phoques gris, 11 espèces d'oiseaux marins reproducteurs et 25 000 couples d'oiseaux marins. Donc c'est un site somptueux, unique en France métropolitaine.
Bien sûr que les pêcheurs ont tout intérêt à ce qu'on crée des aires marines protégées, c'est évident. Quand on définit un périmètre de plus de 15 000 hectares ici, ça veut dire qu'on protège les habitats. C'est protéger aussi les poissons et éviter qu'il y ait des activités qui viennent nuire justement à ces habitats, ces espèces.
Cette réserve doit être agrandie par décret fin 2022. Une enquête publique qui s'annonce houleuse est prévue à l'automne.
Voilà, il faudra faire plus. Merci hein, Célia Quéret pour ce reportage et le bruit des mouettes, n'est-ce pas, au large des Côtes d'Armor. Il faudra faire plus et mieux dès samedi contre l'Ukraine à Kiev et puis mardi prochain à Lyon contre la Finlande, parce que les Bleus hier n'ont pas brillé sur la route des qualifications au Mondial 2022. Match nul 1-1 contre la Bosnie-Herzégovine à Strasbourg. Cela dit, ils restent tout de même en tête de leur groupe. Un petit tour aux toilettes et ça va mieux. Mais que fait-il pendant ses pauses? C'est la question que tous les adversaires du joueur de tennis Stefanos Tsitsipas se posent, et ils le disent à l'US Open notamment, où le Grec a encore gagné cette nuit en battant le Français Manarino après une longue pause pipi qui lui a valu les huées du public. Fabrice Abgral.
C'est Alexander Zverev qui, le premier, a dénoncé l'attitude de Stefanos Tsitsipas sur le court. À Cincinnati, en demi-finale face à lui, l'Allemand a commencé à avoir des doutes sur le comportement du Grec.
Il est parti pendant plus de 10 minutes et son père envoie, comme par hasard, des textos au téléphone. Il sort et tout d'un coup, ses tactiques changent complètement. C'est comme si c'était un endroit très magique où il se rend, ou sinon, il communique là-bas. Alors je ne veux pas non plus le soupçonner plus que ça. C'est un grand joueur, mais ça arrive trop souvent.
Et à l'US Open, rebelote au premier tour contre Andy Murray. Tsitsipas est allé aux toilettes à la fin du quatrième set. Il s'est absenté près de 8 minutes. L'Écossais a bien fait comprendre à l'arbitre que la pause que s'était accordée Tsitsipas était beaucoup trop longue. Mais rien à faire, le Grec est revenu comme si de rien n'était. Il a gagné le match et Andy Murray n'a pas apprécié.
C'est un joueur brillant, génial, mais j'ai perdu tout respect pour lui.
Andy Murray s'est montré beaucoup plus ironique quelques heures après en postant sur Twitter le message suivant. Ça a pris deux fois plus de temps à Tsitsipas d'aller aux toilettes qu'à Jeff Bezos pour s'envoler dans l'espace. Tsitsipas, lui, se défend. Il dit qu'il agit dans le cadre du règlement qui autorise des pauses toilettes, mais un règlement qui reste flou sur la durée de ces pauses autorisées.
Fabrice Abgral, pour terminer, des femmes maternelles et tourmentées, des secrets de famille et une langue qui claque, les obsessions de Pedro Almodovar, on les retrouve dans son nouveau film présenté hier soir en ouverture de la Mostra de Venise, avec son actrice fétiche Penélope Cruz, Madres Paralelas, Mère Parallèle, vue pour nous par Corinne Pellissier.
On la découvre à la maternité, Penélope Cruz, dans le rôle de Janice, photographe à Madrid. 40 ans, libre, indépendante, sur le point d'accoucher en même temps que sa voisine de chambre, Anna, dans un mélo rempli de rebondissements, hélas, un peu prévisible. Deux mères célibataires, un secret et beaucoup de questions autour du thème des origines et de ce qui fait notre identité. Les liens du sang, le poids de l'histoire et le traumatisme de la guerre civile. Le film sans doute le plus politique à ce jour d'Almodovar, qui tente ici de solder les comptes avec l'Espagne du franquisme, à travers notamment le personnage de Janice qui veut offrir une sépulture à son grand-père disparu. L'occasion de croiser ici plusieurs générations de femmes, Rosy de Palma, Aitana Sanchez, Milena Smith, tout en quête de vérité dans cette intrigue que l'on va suivre à la manière d'un thriller.
Voilà, Corinne Pellissier à la Mostra de Venise. Chez nous en France, on attendra le 1er décembre avant de pleurer ou de s'agacer devant ce dernier Almodovar.
Merci Florence Paracuelos. Marie-Pierre Planchon pour la météo.
La météo avec Via Santé, la mutuelle d'AG2R La Mondiale. Quel que soit le temps, pour ma santé, c'est Via Santé.
Et une rentrée orageuse dans le sud-ouest, Marie-Pierre, dès ce matin.
Et oui Nicolas, alors que sur une large moitié nord, cette rentrée se fait sous le soleil, même près des côtes de la Manche, après la dissipation des brumes et des grisailles, avec l'aide de ce vent de nord-est, alors que le sud, donc, ça va se gâter à cause de l'instabilité qui remonte d'Espagne sur les Pyrénées, avec déjà des orages et un ciel qui s'ennuage du bassin d'Arcachon à l'Occitanie, avec l'aide du vent d'Autan et ses averses gagnent le Languedoc-Roussillon. Ça se voile sur la Corse, sous un mercure déjà bien haut, 22 à Ajaccio, il fait 21 à Nice, grand écart avec les 6 petits degrés à Aubusson comme sur les Ardennes, et vous avez 12 à Paris et à Lyon, 15 à Lille.
Et cet après-midi, l'instabilité remonte.
Oui, on va la retrouver avec les orages des côtes landaises à l'Occitanie, et avec ce vent d'autant, les averses orageuses vont se bloquer sur les Cévennes et le Languedoc-Roussillon. Le ciel va se nuager de plus en plus sur la région PACA dans la vallée du Rhône, avec des averses sur les Alpes, alors qu'au nord de la Loire, vous passerez un bel après-midi estival, et sur le nord, le mercure va remonter avec 21 à Valogne, 22 à Lille, 24 attendus à Rouen comme à Pau ou Belfort. Il fera 25 à Paris comme à Toulouse qui perd 5 degrés par rapport à hier. Comptez 27 à Bordeaux, Bastia-Menton, 28 à Bourges comme à Marseille et 30 à Limoges.
À tout à l'heure Marie-Pierre.
À tout à l'heure.
France Inter, il est 8h18.